One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Je suis Juan Díaz Canales.
Et je suis Luc Lang.
Et avec eux, il sera question de polar, de petits vieux et de grands paysages.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
Et dit.
La culture sert à tout, même à défier des taureaux. À l'occasion de la venue de Juan Díaz Canales et des attaches pyrénéennes de Thomas, le héros du roman de Luc Lang, j'ai porté le regard sur l'actualité culturelle espagnole. Et j'ai notamment appris qu'une grande manifestation contre la tauromachie venait de mobiliser des dizaines de milliers de personnes dimanche à Madrid. Et cela dans le sillage du Parti pour la défense de la cause animale, actuellement en plein essor. J'ai également découvert que la Catalogne avait d'ores et déjà banni les spectacles tauromachiques. J'ai alors repensé à Georges Bataille, qui avait lui découvert la corrida à Madrid en 1922 et qui avait tiré de cette expérience sa sublime et saisissante histoire de l'œil. Je me suis également remémoré ma propre expérience de la Feria de Nîmes, cette grande fête cathartique, érotique et endiablée dont la nouvelle édition s'apprête à débuter. Et quoi, ai-je songé? Nous faudrait-il aujourd'hui interdire cette danse avec la mort et les fêtes païennes qu'elle déchaîne en oubliant que les fêtes ont pour fonction fondamentale d'organiser la transgression solennelle d'une prohibition, que les fêtes sont une rupture, parfois brutale, mais toujours ritualisée en réponse à la rupture insupportable de la mort des hommes? Je vous laisse pour ce soir avec ces questions et avec Nietzsche, qui dans le Gai Savoir écrivait « Qu'importe l'art de nos œuvres d'art, si grand soit-il, si l'art supérieur, l'art des fêtes, se met à disparaître parmi nous. » Trêve de confiserie sur l'air du Paso Doble, Pan y Toros qui sert de paseo, eh bien je vous laisse libre d'ouvrir ou de laisser close l'histoire de l'œil de Georges Bataille publié chez Gallimard, ou de franchir ou non les voûtes des arènes de Nîmes lors de la feria qui embrasera la cité du 17 au 18 septembre. Et je me permets d'ajouter qu'il y a une exposition sur la tauromachie en bande dessinée au musée des cultures taurines. Juan Díaz Canales, bande dessinée, nous allons en parler puisque vous êtes non seulement scénariste, vous vous mêlez de cinéma d'animation et vous êtes aujourd'hui dessinateur de votre premier album avec Au fil de l'eau. Vous êtes sensible au mystère de la tauromachie?
Bon, tant qu'espagnol, c'est complètement impossible de passer à côté. Soit parce que tu es partant, soit parce que tu es vraiment passionné. Donc j'étais à la feria, j'avais été à Madrid au fait, donc c'est le lieu où on trouve la place de taureaux la plus grande du monde. Donc j'étais là au festival de San Isidro, c'est la foire la plus importante en Espagne. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai un sentiment mitigé, parce qu'il y a une contradiction que tu as très bien exprimée entre les côtés artistiques, les côtés rituels et les côtés très, très liés à la culture espagnole. Et en même temps, moi, j'ai découvert que je suis aussi assez sensible à tout ce qui se passe avec l'animal et tout ça. Donc, puis
rappelons que vous êtes le scénariste de Black Sad en particulier, Polar,
tous les animaux,
chat.
Tout à fait.
C'est de l'anthropomorphisme.
Oui, il me gagne la vie grâce aux animaux, donc il faut les avoir un regard sur eux. Et sinon, en Espagne, la controverse, ça va très loin. C'est pas seulement que la corrida, mais aussi beaucoup de fêtes qui se passent dans les petits villages. Et pas si petite comme les taureaux de la Vega, c'est pas si vous avez entendu parler, c'est un spectacle plutôt cruel et
qui vient d'être interdit.
Ouais, c'est ça. Donc bon, bref, moi j'ai beaucoup réfléchi, mais j'en ai arrivé au point de dire bon, il faut interdire ça. Il faut pas du tout. En tout cas, j'y crois que ça commence à être de plus en plus détaché. Même le monde culturel commence à être un peu détaché par rapport à la corrida, parce que ça s'impose un peu la question des animaux qui souffrent.
Et sur un plan plus métaphorique, puisque nous avons un romancier aussi à notre table, Luc Long, vous dites que vous écrivez pour vous protéger du monde, en quelque sorte pour le supporter. Est-ce que vous arrivez jusqu'à dire, comme Michel Léris, dans la préface de L'Âge d'Homme, que la littérature peut être considérée comme une tauromachie, Luc Long?
Oui, absolument. J'allais d'ailleurs vous citer ce texte quand je vous entendais parler de la tauromachie à l'instant. En tous les cas, c'est une belle métaphore de la littérature. Et je pense que c'est peut-être plus important de se battre sur le sort des animaux quant à l'élevage industriel, la manière dont ça se passe dans les abattoirs industriels. Je trouve que c'est plutôt ça l'enjeu, que ces faits qui ne sont pas seulement effectivement une mise à mort parfois cruelle des animaux, mais qui s'accompagnent de toute une mythologie et toute une histoire, et que c'est pas là que l'éthique concernant les animaux est la plus importante. Je crois que c'est vraiment aller voir du côté des abattoirs et de la manière dont on élève les animaux. Je crois que c'est là que vraiment l'enjeu est important.
Et la littérature, alors, en quoi elle peut être considérée comme une tauromachie ?
Par le risque pris en écrivant et par la façon dont effectivement mettre en scène, inventer des personnages, inventer des actions, inventer des histoires et savoir les rendre justes et savoir les rendre nécessaires relève effectivement d'un risque, d'une prise de risque maximale d'une certaine façon pour l'écrivain.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping-pong.
Au commencement du septième jour, si Dieu se repose dans le polar existentiel de Luc Long, à qui vous empruntez ce titre à la Genèse, Luc Long, donc je reprends l'histoire, le héros, lui, va s'activer. Il va s'activer pour découvrir qui il est après une sorte de Big Bang existentiel dans lequel je vous propose de nous plonger, Luc Long.
Il s'endort à côté du clavier, les coudes sur le bureau. Il ouvre une porte, se cogne à son père qui rase sa barbe, poivre et sel, qui lui sourit. Il a les jambes en sang, écrasées, rompues. Il rampe parmi les rochers, sous un ciel blanc. Sa mère lui téléphone, mais il ne peut saisir le combiné. Ça sonne, lui vrille les tympans. Non, ça sonne encore. Son portable, sur le verre dépoli du bureau. Quelle heure est-il ? Quoi ? 4h du matin ? C'est un appel privé. Allô ? Oui ? Une voix grave, autoritaire, qui se présente. La gendarmerie de Saint-Eustache-la-Forêt. Pardon ? Saint-Eustache-la-Forêt en Normandie. Sincèrement désolé de vous déranger en pleine nuit. Camille Texier, c'est bien votre femme ? Aux urgences de Bolbec. Un accident de voiture. On souhaitait vous prévenir au plus vite. Non, il est réveillé. C'est bien la gendarmerie. C'est grave ? On lui donne le numéro des urgences.
One Quiet Night. Vous avez reconnu Luc Long ?
Oui, bien sûr, Pat Metheny en solo. Et c'est ce qu'écoute Thomas en essayant de rejoindre.
Thomas, c'est votre héros ?
C'est le héros, essaye de rejoindre Camille juste après ce coup de téléphone où il se demande s'il emmène les enfants ou s'il les laisse là, c'est-à-dire dans la maison. Il décide de laisser les enfants, effectivement, à la maison et de partir après les avoir confiés à la nounou. Et il décide de partir donc seul pour rejoindre Camille qui est aux urgences de Bolbec. Et donc il met cette musique quand il prend l'autoroute vers le Havre.
Quand je parle de polar existentiel, c'est peut-être un peu ramassé, mais c'est pour donner à la fois cette tension qui est celle du lecteur, à savoir si Camille... va survivre, comment, et aussi à suivre le héros dans cette quête. C'est une quête avec plusieurs facettes familiales, oui. Le frère, la sœur. Pourquoi est-ce que justement vous avez souhaité nous raconter cette odyssée, on va dire, intérieure avec l'attention supplémentaire qui est le décès ou pas de cette femme? Parce que finalement, partir pour se trouver soi-même, c'est un grand thème de la littérature qui peut se passer de ce suspense-là.
Oui, c'est vrai, mais Thomas est un homme contemporain, une trentaine, comme sa femme. Tous les deux travaillent dans le high-tech, nouvelles technologies. Hein. C'est une nouvelle génération, c'est la génération de ceux qui, en maîtrisant ces techniques-là, ont le pouvoir aujourd'hui et qui n'est pas un mince pouvoir, c'est un pouvoir planétaire. Hein. Et ils sont cette génération de gens conquérants qui ont le sentiment de réussir parfaitement leur vie, et ils sont totalement urbains. Et le genre qui s'impose immédiatement, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, le genre contemporain urbain, c'est plus encore que le roman policier, c'est le thriller. Et donc, pour moi, le genre du thriller s'est imposé d'emblée parce que c'était le rythme et c'était la pulsation qui convenait le mieux aux personnages de Thomas et de Camille.
Luc Lang, non content d'écrire des romans, vous enseignez et vous écrivez également sur l'art contemporain. Il y a dans ce commencement du septième jour à la fois une dimension de thriller et aussi, vous le disiez, avec l'univers, le milieu de haute technologie qui dans lequel nage et vivent vos personnages au début du roman. Il y a une dimension hyper réaliste, on a envie de dire. Et tout d'un coup, ce qui va submerger votre héros et votre récit, c'est la pastorale. C'est l'élégie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la nature, comment ces gens ont repris leurs droits sur le thriller, sur l'hyperréalisme?
Oui, parce que devant le traumatisme que va subir Thomas avec cet accident de Camille, ce qui le tient dans cet univers-là va s'émietter, va s'effriter. Thomas est dans l'univers de la visibilité. Et il est tellement dans l'univers de la visibilité que effectivement l'informatique lui donne cet accès à la visibilité totale, on pourrait dire, puisqu'il fabrique des logiciels de contrôle temps pour le personnel qui travaille en extérieur d'entreprise. Donc il est dans le tout visible. Et précisément, il va s'apercevoir avec l'accident de Camille que le sens des choses et que ce qui lie les êtres entre eux ne relève pas forcément du visible. Et Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit et qui pense qu'il voit tout.
Ça me rappelle quelqu'un.
Oui, vaguement, oui. S'il s'appelle Thomas pour ça d'ailleurs, hein, Thomas va s'apercevoir que finalement, progressivement, il va se trouver déporté de son univers d'urbain vers des univers autres où il va redécouvrir, ou plutôt découvrir, je dirais même, un autre sentiment de l'espace, un autre sentiment de la géographie. Et évidemment, la fratrie dispersée, qu'il va rechercher comme un appui pour faire face à ce qu'il doit affronter, à la fois en tant que mari aimant, mais aussi en tant que père, mais aussi en tant que cadre supérieur d'une boîte très dynamique où faut être performant H24. Eh bien, il va, en allant chercher ses appuis auprès de son frère et ensuite de sa sœur, il va évidemment découvrir un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace, où le sens circule autrement entre les êtres.
Il y a le tout visible, il y a le tout contrôlable, oui. Dont il faut apprendre à se défaire. C'est un livre qui nous emmène dans la tête du narrateur, le narrateur nous emmène dans la tête du héros Thomas, mais vous vous abstenez de toute psychologie. Finalement, justement, c'est le paysage qui prend en charge les sentiments du personnage. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait un livre hippalage, si vous connaissez cette figure de style Luc Lang?
C'était l'idée qu'il ne s'agissait pas de décrire les paysages, mais il s'agissait de décrire des perceptions de paysages. Et du coup, la manière dont les paysages surgissent dans le livre, c'est toujours des perceptions de paysages qui sont tout à fait centrées sur Thomas et qui sont liées à des affects ou des émotions ou des pensées tout à fait spécifiques, tout à fait précises, tout à fait singulières, qui sont liées à l'histoire qu'il est en train de vivre. Et les paysages cristallisent du coup ce qu'il est en train de penser, ce qui nous permet d'éviter les pensées intérieures, la psychologie, enfin tout ce que je déteste dans le roman plutôt européen et tout ce que j'aime justement dans le roman américain.
Juan Díaz Canales, des paysages, il y en a non seulement dans votre nouvel album, Au fil de l'eau, dont vous êtes à la fois le scénariste et le dessinateur, mais il y en a aussi bien sûr chez Corto Maltese, dont vous avez organisé la résurrection l'an passé pour les lecteurs français. Et vous aimez à dire que pour Pratt, Hugo Pratt, le père de Corto Maltese, les paysages sont des personnages en tant que tels. Et des paysages, donc, on en retrouve même d'emblée au début de Au fil de l'eau, à travers ce qui semble être un songe. C'est des paysages madrilènes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, nous décrire peut-être quelques-uns de ces paysages que vous avez dessinés pour la première fois et nous expliquer quelle perception, quelle sensation ils transportent avec eux?
Oui, tout à fait. Mon démarche, c'était au contraire celle de Luc, parce que mes personnages à moi dans cette récit, tout se passe dans la grande ville, à Madrid. Donc, il n'y a pas de sortie. On ne veut des arbres
pas que des
non salida. Ouais.
Mais il y a les souterrains.
Oui, les souterrains.
Puis il y a l'eau.
Oui. Il y a l'eau qui est présente partout dans l'album. Mais bon, le reste, ce sont des décors de Madrid, de Madrid actuelle. C'était Madrid parce que c'est la ville où j'habite et que je connais très bien. Et pour ce premier opus, j'essayais d'utiliser ça que je connais.
Dans les premières planches, on est où à Madrid et justement pourquoi avoir ouvert dans cet endroit où l'eau est là.
C'est un peu shakespearien, on peut dire, parce qu'on commence avec une séquence, avec un couple de rats qui se sont. On ne sait pas vraiment où nous y sommes. Parce qu'ils sont sur un bateau,
une sorte de barque sur le fleuve,
avec un vieux mec qui apparemment a été tué. Et il y a deux rats qui parlaient de vieux mec, et ils se plaindre un peu, bon, qu'il a malchance, et voilà. Et finalement, on découvre qu'on est dans le parc de Retiro à Madrid, c'est super célèbre, c'est assez connu, c'est au centre-ville, et bon, c'est, on dirait des jardins de Luxembourg à Paris, ou quelque chose comme ça, c'est assez pareil. Et voilà. Et d'un coup, on découvre que tout se commence, qu'on peut dire un peu fantastique, devient d'un coup un récit qui a beaucoup plus de social, qui nous parle de la crise économique, qui nous parle aussi de combien c'est différent la perception qu'on a de la vie et de la mort selon l'âge qu'on a à chaque fois. Et voilà, c'était un peu les partis pris que j'ai pris.
Mais Luc Lang, justement, si ça filtre le contemporain et notamment la crise aussi économique en Espagne dans cette bande dessinée de Juan Díaz-Canales, il y a aussi le monde contemporain. C'est vrai qu'on est parti de ces hyperactifs à la pastorale, mais finalement, il continue de filtrer tout au long ce monde contemporain. C'est-à-dire, vous avez aussi eu envie de nous raconter ce que c'est que le stress au travail, ce que c'est que c'est on va dire ces situations où on ne cesse jamais de penser au travail, finalement, plutôt que de parler de burn-out. Pourquoi vous avez décidé de le faire rentrer, mais en arrière-plan, justement, dans le paysage?
Parce que quand on est face à un événement comme celui que vit Thomas, à savoir l'accident de sa femme qui la met dans le coma, il est à la fois effectivement un mari aimant qui vient au chevet de sa femme en espérant qu'elle va enfin se réveiller, mais il est aussi le père qui doit s'occuper des enfants et faire face à l'absence de cette mère pour ses enfants. Il est aussi, encore une fois, un cadre supérieur dans une entreprise où il faut qu'il soit parfaitement performant. Et donc, il a toutes ses facettes à affronter. Et il fallait tenir tous les fils, c'est-à-dire montrer que, en fait, une vie contemporaine, qui aurait pu être le titre de ce livre, une vie contemporaine, elle est faite de tous ces fronts-là et de toutes ces facettes-là qui nous façonnent, où on est à la fois préoccupé par l'éducation de nos enfants, comment les emmener à l'école, bref, il y a tout ce qui tourne autour des enfants, mais il y a tout ce qui tourne aussi autour du couple, tout ce qui tourne aussi autour de la famille, tout ce qui tourne aussi autour de son travail, comment maintenir, tenir sa place à son travail. Bref, c'est énormément de pression dans tous les sens. Et cette pression dans tous les sens, il fallait la tenir. Et ça pouvait pas être seulement un drame affectif et familial. C'était aussi quelque chose qui était un homme dans le monde. Et il fallait que ce monde-là, il soit présent dans le livre. Mais on s'aperçoit aussi que l'informatique, c'est le puçage électronique des troupeaux. Et que l'informatique et le contrôle informatique irriguent absolument toute la planète, y compris pour des bergers ou des chevriers qui se retrouvent à devoir faire un puçage électronique de tous leurs troupeaux. C'est une loi qui est devenue effective en 2010. Alors les paysans se sont beaucoup révoltés contre cette loi et l'application de la loi est suspendue pour l'instant. Mais il y a eu pendant 4 ans, on s'est mis à pucer électroniquement tous les troupeaux, y compris les troupeaux d'estive et d'alpage, ce qui est hallucinant quand même. Et puis quand on est en Afrique noire, on s'aperçoit qu'il y a des tensions extrêmes avec le groupe Boko Haram qui tient le nord du Nigeria et qui filtre aussi. Et dans le nord du Nigeria, il y a le risque qu'une partie de l'extrême nord du Cameroun soit annexée au Nigeria par le groupe Boko Haram. Donc j'ai voulu que ce livre soit absolument ancré dans le monde d'aujourd'hui. Que l'on soit en Afrique, que l'on soit dans les Pyrénées ou que l'on soit à Paris.
Pour être fidèle au tissu nerveux de l'homme contemporain, en
oui,
fait,
absolument.
C'est des nervures, tout ça.
Pour moi, c'est très important que le roman soit inscrit dans le présent et soit inscrit dans ce monde. C'est ce monde qui nous fait, c'est nous qui le faisons, mais c'est lui aussi qui nous fait. Et il fallait absolument essayer de tenir tous ces fils en même temps.
Juan Díaz-Canales, si on démarre dans une ambiance shakespearienne, votre bande dessinée Au fil de l'eau, avec ce dialogue entre deux rats près d'un cadavre, on est très vite aussi embarqué dans le monde contemporain et dans une situation singulière qui est ce vieux Niceto qui, avec ses amis, vendent de la marchandise volée sur le trottoir, en face même d'un commissariat, et sans parler d'accident, comme pour le héros de Luc Lang. C'est une situation, une expérience que vous avez vous-même vécu,
ouais,
qui vous a poussé à l'acte, pour reprendre des termes languiens.
Tout à fait, c'est ça. C'est un essai sur lequel j'ai été témoin. C'est coin de Madrid que j'ai représenté, ça existe. Et c'est en face d'un commissariat. Et après ça, que ça a été vraiment le déclic pour l'histoire, pour me dire qu'est-ce qui se passe avec ces vieillards qui sont en train de trafiquer avec la marchandise volée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnes qui arrivent à faire ça? Et moi, je me suis dit que c'était beaucoup mieux faire un parcours plutôt romanesque, qui a l'air sur les faits divers et essayer de faire un documentaire ou quelque chose comme ça. Donc c'est à partir de cela que j'ai créé les personnages et c'est presque la seule chose qu'on peut dire que c'est basé dans des faits réels. Le reste, il y a plein de choses prennent de la vie, même de ma vie personnelle. Et comme les petits aspirateurs robots.
Un petit robot, il y a du high-tech aussi chez Juan Díaz-Canales, oui. Un aspirateur robot.
Oui, et que c'est chez moi. Et ça forme part de la famille. À part ça, il y a le reste, ce n'est qu'une réflexion sur la forme des polars, mais c'est pas du tout un polar, on peut dire classique, c'est plutôt. Une histoire qui commence comme un polar, mais qui devient un peu l'aspect social, mais c'est non plus ça, parce qu'à la fin, c'est aussi assistentiel, c'est presque obligatoire une fois qu'on commence à parler sur les thèmes de la mort.
Luc Lang, vous avez lu justement la BD.
Oui, c'est un polar métaphysique, je dirais, parce que le secret est un secret métaphysique, j'en dis pas plus, mais le secret qui lit, c'est ces personnages, ces vieux brigands qui ont la liberté de leur vieillesse aussi, c'est-à-dire le fait d'être vieux, les défend d'un devoir de citoyen et leur donne un accès à une espèce de liberté qui est la liberté de la vieillesse aussi. qui en font des sortes de marginaux anarchistes un peu, et donc ils ont un secret. Et...
Oui, mais il n'y a pas plus punk que les vieux. Hein.
Oui, j'avais un peu de peur.
Vous tuez des vieux, vous voulez dire, comme vous le faites dans votre bande dessinée, mais vous êtes passé à l'acte.
Non. Il y avait un peu de peur. Et...
La gérontophobie, c'est ça.
Ça n'existe. Il y avait un peu de peur avec ces secrets métaphysiques, parce qu'à la fin, c'est un peu risqué. Et il y a pas mal de lecteurs, et notamment, je peux imaginer des lecteurs qui viennent de lire Black Sad, qui demandent une enquête plus classique avec un final un peu plus...
académique.
Ouais. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc, bon, en tout cas, faire raconter les histoires, c'est prendre des risques et essayer.
C'est la tauromachie.
Ouais.
On parle de forme, de parti pris esthétique, de risque aussi, c'est vrai. Hein, scénariste de Black Sad ou du nouveau Corto Maltese, là, vous dessinez pour la première fois dans Au fil de l'eau. Et puisqu'on est dans les questions formelles, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur un personnage, à mon avis, essentiel de votre roman, Luc Lang, au commencement du septième jour, qui est le silence. Il y avait quelqu'un qui travaillait ici à France Culture, Yann Parentoen, on l'appelait l'enregistreur de silence.
Oui.
Et il y a une qualité, une variété de silence dans votre livre qui est assez impressionnant. Comment vous avez travaillé cette matière-là? On a un silence avec des murmures dans une église, on a un silence ouaté d'une auberge de province, on a le silence de l'habitacle de Lodi, on a le silence de cette personne qui est Camille, la femme du héros qui est dans le coma, et puis le silence dans les Pyrénées aussi, celui quand on a fait une connerie, qu'on aurait peut-être pas dû s'engager dans une marche un peu difficile. Comment vous avez travaillé ces silences pour justement, voilà, nous proposer une sorte de gamme impressionniste, en fait?
Vous me faites très très plaisir, là, vous savez. Parce que moi, je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais d'un seul coup, ça m'éclaire. Moi, je pensais plutôt aux ellipses, mais c'est vrai que j'essaye de faire des silences pleins, c'est-à-dire c'est des silences pleins de sens. Mais le sens, il est pris à charge par le lecteur, la lectrice. Et... Il y a plein de moments où ça se tait, et justement ça se tait parce que c'est un moment où on pourrait très aisément parler et délivrer du sens. Et le fait de se taire dans ces moments-là permet justement au lecteur, à la lectrice de prendre à charge toute la pensée qui lui vient à ce moment-là. Et c'est vraiment aussi l'idée de, vous savez, quand on est à deux et puis il y en a un qui se tait et puis l'autre qui lui dit « à quoi tu penses ?» Et l'autre répond à rien. Et en fait, c'est pas que l'on pense à rien à ce moment-là, mais c'est qu'on pense à tellement de choses qu'on ne sait même pas par quoi commencer. C'est-à-dire que c'est des silences pleins. Et c'est des silences où à la fois la pensée dérive et la pensée est nourrie totalement par la scène qui a eu lieu avant ou par les préoccupations qui hantent la personne. Et donc, de fait, on pense à rien parce qu'on pense à tellement de choses. Et ce sont ces silences-là, très pleins de sens, que j'ai essayé de semer tout au long du livre dans des situations, comme vous dites, très différentes.
Que vous offrez également à la lectrice, au lecteur, avec ces phrases en suspens, avec les points de suspension.
Oui.
Il se trouve que Juan Díaz-Canales, vous avez été choisi pour reprendre le personnage de Corto Maltese, en particulier, dit-on, pour la qualité de vos silences comme scénariste. Mais aujourd'hui, vous êtes non seulement scénariste, mais aussi dessinateur, puisque Luc Lang aime beaucoup les rapports entre images et mouvements qui sont au cœur de la bande dessinée. Expliquez-nous un peu comment vous faites le silence.
Bon, d'abord...
C'est des regards?
Écoutez, d'abord, la démarche de lire un BD, c'est un truc qui se passe en silence. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'à la fin, c'est le lecteur qui apporte les sons. De telle façon que chaque fois que, par exemple, on voit un BD adapté au cinéma, il y a quelque chose qui cloche. Et normalement, c'est la voix de l'acteur qui est en train de jouer le rôle de tel personnage. Donc d'abord, c'est déjà un métier silencieux. Et puis, par rapport à le style narratif, il y a une autre chose qui se passe et qu'on profite beaucoup les auteurs de DVD, et c'est l'ellipse qui se passe entre case et case, et qui encore ça établit une relation, une liaison directe avec le lecteur. Parce que c'est l'imagination du lecteur qui va remplir toute l'action qui se passe entre toutes les deux cases.
Et justement, puisqu'on était dans cet imaginaire, parce que ça a été effleuré par Martin, cette histoire de phrase en suspension, moi j'ai juste envie qu'on y revienne une seconde avec Lou, avec vous Luc Lang, avec Lou, qui crie dans la montagne. C'est vrai que c'est la première chose qu'on remarque quand on ouvre votre livre, c'est que la pensée du héros reste en trois petits points. Les phrases, c'est bien pour ça que lui aussi, il, lui qui pourtant... Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un renoncement aquaboniste qu'on se fait à soi-même, pour reprendre une chanson qui a été écrite par Gainsbourg ? Je ne vais pas aller au bout de cette pensée. Est-ce que c'est une contradiction qu'on s'oppose ? Est-ce que c'est le fil de la pensée comme ça que vous avez cherché à reproduire ? Voilà, je me posais la question.
C'est le fil de la... C'est surtout que quand la phrase est entamée... Dans cette direction de syntaxe-là, la fin de la phrase est évidente. Donc c'est même pas la peine de l'écrire, puisque le lecteur, la lectrice va le penser. En fait, je préfère travailler l'induction que d'écrire les choses. Et donc, plus les non-dits et plus les inductions d'implicites sont fortes, bah plus ça va être le lecteur qui va penser la fin de la phrase. Et il faut mieux que ce soit lui qui la pense plutôt que moi. 1, 2, 3...
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, on l'espère, vous laisse finir les phrases. À suivre, Au fil de l'eau, avec Juan Díaz-Canales, dans l'Espagne d'aujourd'hui et peut-être de toujours, et toujours au commencement du 7e jour, avec Luc Lang.
Ping Pong. La culture sans limite.
Quel est le point commun entre Zola, Rabelais, Polnareff et Patti Smith ? Eh bien, c'est l'Élysée-Montmartre, salle mythique parisienne qui va réouvrir, ouverte en 1807. Elle sera décrite dans l'Assommoir de Zola. Si on y fait du catch, à une époque, on y a aussi joué du théâtre, un Rabelais par Jean-Louis Barrault sur une musique de Polnareff, c'était là. Dans les années 70, les concerts de Patti Smith et Jacques Higelin, entre autres, une identité rock dans les années 80-90, Neil Young, Noir Désir y sont passés. Et puis, de plus en plus de concerts événements, toute étiquette musicale confondue. On y fera des fêtes électro dans les années 90, même des salons d'alcooliers, un peu de tout. Une identité mosaïque partie un jour en flammes. Après 5 ans de fermeture, l'Élysée Montmartre réouvre et choisit M, le guitariste, pour un concert intimiste qui renoue avec la grâce minimaliste plutôt que les grosses machines de son et lumière. Bref, de quoi faire résonner à nouveau dans les murs une onde sensuelle.
De ta bouche sur la mienne, c'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre, onde sensuelle. Toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel. Pour nous lier jusqu'au ciel. Sens si romantique, mon troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes. des ailes. Comment t'atteindre en sensuel, toi qui me donnes des ailes.
M est son nom de sensuel pour la réouverture à Paris de l'Élysée-Montmartre. Ce sera ce jeudi 15 septembre. Vous pourrez réviser votre historique dans les pages de notre partenaire, le Figaroscope.
Il est temps de décrocher le téléphone d'Alvaro. On est bien au fil de l'eau dans votre nouvelle bande dessinée, Juan Díaz-Canales, bande dessinée publiée chez Rue de Sèvres. Vous êtes à la fois au scénario, au dessin, et Alvaro, c'est la troisième génération de vos personnages. Il y a Niceto, cet homme âgé qui trafique donc des marchandises volées, dont on a parlé tout à l'heure, sur les trottoirs madrilènes, pour cause à la fois de crise économique et de liberté anarchique et anarchiste de la vieillesse, comme le disait Luc Lang. Il y a son fils, Roman, médecin légiste, qui est le garçon qui a réussi. Et c'est Alvaro qui travaille au SAMU social et qui, d'une façon assez ironique, écoute, a choisi pour sonnerie de son téléphone portable Life Goes On, cette chanson à la fois sirupeuse et très optimiste. Au contraire, il semble, Juan Díaz-Canales, que cet album ce soit une vision assez crépusculaire de l'Espagne. On parlait de la dimension pastorale du roman de Luc Lang, il y a de la nostalgie dans la pastorale, il y a une nostalgie chez vous aussi, sinon d'un âge d'or, je sais pas, du siècle d'or et d'une Espagne qui semblerait incapable de s'en remettre.
Non.
Oui, le soleil se couchait jamais, vous vous souvenez?
Bon, je me souviens pas de cette époque-là. Hein. Ça fait déjà
vous n'avez pas appris avec Velázquez, vous n'étiez pas dans son atelier.
Non, pas du tout. Et puis en Espagne, ça fait déjà un bal que on a pris un peu de retard. On est arrivé en retard toutes les révolutions, soit la révolution industrielle, soit la révolution libérale. Plus directement ou plus récemment, on peut parler effectivement de la dictature de Franco. Bref, chaque fois que, par exemple, quand je suis ici en France, et il y a quelqu'un qui me demande, il me dit mais Espagne, c'est un pays comme la France. Et moi, j'ai dit non, arrête, c'est pas ça. Ah, ouais, c'est vrai, c'est à cause de la dictature. Et non plus, ça vient de loin, ça vient vraiment de loin. Et en fait, à la base de la guerre civile, c'était ça. C'était une révolution qui n'a jamais pas arrivé. Pardon. C'est aussi le pouvoir de l'Église catholique qui a resté très fort jusqu'à la moitié et après avec Franco bien sûr, mais surtout jusqu'à la moitié de 20e siècle. Et puis ça nous donne la situation actuelle que on a essayé de rattraper un peu le monde qui nous a passé par dessous, mais que finalement on a cru que on avait rattrapé soit à niveau social soit à niveau économique pendant les années 90. Mais finalement, après la crise, on a découvert que c'est pas de tous les cas et que on a, au moins c'est mon avis, on a encore un retard à tous ces niveaux-là. Donc,
c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je disais, il y a une lecture crépusculaire de l'Espagne. Si tout l'Occident s'effondre, si l'Espagne est en retard, il lui reste un petit peu de temps devant elle.
Moi, et c'est pour ça, en fait, que j'ai mis les personnages d'Alvaro. Je suis pas tout d'accord avec toi avec les 7 ans crépusculaires de l'histoire parce que j'essayais de mettre en avant aussi le rôle d'Alvaro qui
c'est ce jeune homme qui travaille au SAMU social dans les rues madrilènes.
Ouais, c'est ça. Et à la fin, c'est un mec qui représente et à travers de lui, j'essayais de revendiquer un peu en jeunesse que n'est pas jamais dans les journaux et dans le téléjournal non plus, et que pourtant existe et que se préoccupe pas de grand idéal, mais au moins d'aider à les personnes qui sont autour d'eux et qui participent à les ONG. Bref, il existe aussi. Parfois, on oublie ça. Et ça me donne un côté d'espoir que j'ai voulu transmettre à travers de l'album.
Juan Díaz-Canales, Martin le rappelait, vous avez été choisi pour reprendre Corto Maltese. Vous attaquez donc un mythe, vous l'avez déjà fait, pour la qualité de vos silences, c'est ce qui avait été dit dans la maison d'édition, parce que c'est cela qu'on appréciait dans... Il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits pour prendre la suite de Corto Maltese, et c'est vous qui avez été choisi. J'ai entendu dire, j'ai lu, qu'il s'agirait d'une affaire de XXe siècle, en tout cas de grands événements du XXe siècle, qui irrigueraient ce nouveau Corto Maltese. Comment, pour pas trop en dévoiler, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui va nourrir votre plume?
Bon, il ne faut pas dévoiler rien. C'est chaque personne qui connaît bien Corto Maltese peut deviner. Quand tu parles de les périodes qui a vécu les personnages, qui la chronologie des personnages, tu es capable d'imaginer Corto à la Révolution mexicaine, à la Grande Guerre, comme on l'a déjà vu. Donc, bref, ce sont des conflits qui sont à la base encore, oui. des conflits qui ne sont pas du tout fermés aujourd'hui. Et en fait, c'est la fin de la période coloniale où on a... Ça a été le moment où les frontières ont été complètement refaites. Et maintenant, un siècle après, on peut voir comment, à quel point ça continue de la même façon. Bref, c'est assez facile de faire un parallélisme entre le monde de Corto Maltese et celle qu'on habite maintenant.
Luc Lang, il se trouve que, d'après Juan Díaz-Canales, Corto Maltese, l'univers inventé, imaginé par Hugo Pratt, c'était pour lui, sinon toute une trame historique, aussi une affaire de sensation. Et c'est pour ça qu'il a osé prendre la plume pour se mêler de la suite de la vie de Corto Maltese. Et pour vous aussi, les sensations sont d'importance. Vous étiez dans quelles sensations, si vous pouvez les décrire, quand vous avez décidé d'écrire ce commencement du septième jour, et peut-être dans quelles sensations quand vous vous êtes retrouvé à l'écrire?
J'étais dans une sensation géographique, parce que je venais de finir la trilogie des confins de McCarthy, et j'étais tout à fait engagé dans un autre projet littéraire qui avait débuté un an et demi plus tôt. J'ai tout arrêté. Et je me suis dit, ce sentiment géographique que j'ai dans la trilogie des confins, je vais le transférer dans l'espace européen, qui est un espace tellement différent des États-Unis et du Mexique. Et je me suis dit que j'allais être dans un espace beaucoup plus tramé, beaucoup plus urbanisé, où les espaces dits naturels sont eux-mêmes construits, puisque ce qui fait la beauté des montagnes en Europe, c'est lié aux alpages et à l'estive, c'est-à-dire là où on mène les troupeaux, qui fait reculer la forêt un peu plus loin dans la montagne, et qui permet d'avoir ces sortes de pelouses magnifiques sur les flancs des montagnes. Bref, et je me suis dit, dans cet espace-là, je vais essayer de restituer ce sentiment géographique dans lequel surgit l'histoire des hommes. Et il va falloir donc que je transpose. Là, nous ne sommes pas à cheval. Nous sommes soit à pied, soit en voiture. Beaucoup en voiture, évidemment.
Avec GPS.
Avec des GPS. Nous sommes vraiment dans des espaces tramés, dans des espaces totalement saturés d'orientation, de sens, de capteurs, enfin bref. Et ce pourquoi j'ai choisi... parce que moi, je marche volontiers, mais plutôt dans les Alpes. Pas dans les Pyrénées, mais comme il fallait transposer cette frontière mexicaine, ça pouvait être que la frontière espagnole, et puis le Grand Sud, puisque le Mexique, c'est un peu le Sud pour les États-Unis. Nous, notre Grand Sud, historiquement, à cause des colonies, c'est l'Afrique noire. Donc voilà pourquoi c'est ce sentiment géographique qui s'est imposé avec une géographie immédiatement qui a été pour l'univers urbain Paris, Le Havre avec la vallée de la Seine, le Grand Paris, enfin tout ce projet du Grand Paris hein, qui est un monde parfaitement contemporain pour nous. Et puis les Pyrénées et l'Afrique noire.
Le Cameroun.
Le Cameroun avec cette fratrie qui est dispersée entre ces trois géographies-là et ce qui relie ces trois géographies-là, c'est cette fratrie dispersée.
Et Luc Lang, est-ce qu'il n'y a pas une géographie supplémentaire qui est celle des visages? Parce que il y a une manière de décrire Camille, qui est donc cette femme oui. qui est dans le coma au début du roman, avec le mot de géographie,
oui.
une observation de ses traits et de son état géographique. Vous avez eu envie, au-delà donc de ce séquençage et de ce tramage, d'amener aussi cette lecture, ce moment géographique dans lequel vous étiez oui. sur les personnages.
Oui, la mutation géographique du visage de Camille, oui, qui est une très belle femme, métisse, et qui va avoir le visage bouleversé par l'accident, évidemment. Et puis le coma, ça met le visage dans un état d'expression tout à fait singulier, tout à fait particulier. Et il s'agissait effectivement d'être dans un rapport géographique aussi au visage. C'est-à-dire le sentiment de la peau et le sentiment du corps comme d'une terre, quoi. Enfin, comme d'un territoire, oui.
Et on dit les traits du visage.
Oui.
Parlons de vos traits, Juan Díaz-Canales, puisque Au fil de l'eau, c'est votre premier album en qualité de dessinateur.
Ouais.
J'aimerais que vous nous disiez un mot de ce qui a pu vous nourrir. J'évoquais tout à l'heure la sensation, en lisant Luc Lang, d'être à la fois dans l'hyper-réalisme mmh. et dans l'élégie, donc deux genres opposés, ou en tout cas à une très grande distance mmh. temporelle. Vous, qu'est-ce qui a pu vous nourrir et nourrir ce trait?
Bon, tout d'abord, mon mieux allié, on peut dire, c'est les noirs et blancs. Donc déjà, l'album est parti avec la décision d'être dessiné dans noir et blanc. C'est un peu risqué parce que bon, la plupart des albums dans l'actualité sortent en couleur. Mais pourtant, j'ai toujours adoré les travail des grands maîtres de la bande dessinée qui travaillent sur les noirs et blancs, soit les argentins comme Brescia, Muñoz, Sampaio, et puis aussi le travail ici de Tardy, il y a une référence à Tardy, évidemment, dans la utilisation précisément du décor de cette ville que c'est un personnage en plus du récit. Et finalement, l'utilisation de noir et blanc si dépouillé, avec aucun gris, et ça te donne la possibilité de pousser dans l'expressivité des personnages à tel point que parfois je me suis dit qu'il y a certains passages de mon propre album qui me rappellent pas vraiment à la BD, mais à certains films expressionnistes allemands, de Fritz Lang, quand il était en Allemagne encore. Donc pour moi, ça a été important, c'était de la joie. Et finalement, ça colle très bien avec ce ton un peu existentiel, surtout à la fin du livre, qu'au moment donné, j'ai essayé de faire comme ça, à chaque plan, être un peu plus dépouillé et plus aller à l'essentiel.
Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux, comme avec une femme.
Et à quoi penses-tu, Cortot ?
Arthur Rimbaud.
Un poète français. Dans ces moments-là, je ne pense à rien d'autre.
Vous aurez reconnu La Bohème, le poème d'Arthur Rimbaud. La voix, c'est celle de Richard Berry. On est dans Le Corto Maltese en Sibérie, une adaptation, une animation qui date de 2002. D'ailleurs, vous venez aussi de l'animation. Juan Díaz Cañales, on l'a pas encore dit, mais vous avez travaillé ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le travail d'Hugo Pratt, le créateur de Corto Maltese?
Bon, c'est super compliqué. Pour moi, c'est plutôt...
vous avez le temps, un petit peu. Quand même.
Bon, c'est plutôt, comme on parlait avant, c'est plutôt une sensation. C'est plutôt ça. À vrai dire, pour moi, Corto Maltese a été le déclic qui m'a fait
aimer... C'est votre accident à vous.
Oui, c'est tout à fait. C'était le déclic qui m'a fait tomber passionné de la BD, de la BD adulte, on peut dire. En parlant de la BD adulte, de la BD qui parle... pas des nanas et tout ça, mais des sujets sociaux, de la politique, de l'aventure.
Il y a pourquoi des sacrés nanas quand même chez Hugo Pratt.
Oui, ouais, il est nain aussi. Mais j'avais dit que...
C'était un ami de Manara qui n'était pas le dernier sur les filles, on va dire.
Je l'ai découvert étant ado. Donc c'est pour ça que ça qui m'a étonné, c'est pas la nana, c'est surtout à quel point il était capable de mélanger... par exemple, la poésie, on fait référence à Rimbaud, avec l'aventure pour, avec les conflits idéologiques qui se passent à l'époque, avec les conflits raciaux. Bref, c'est la complète. Pour moi, et tout avec un dessin hyper apparemment simple.
À la fois dépouillé comme vous aimez,
ouais, c'est ça.
Et très précis.
Et très précis, de telle façon que tout n'est fait, tout n'est beau que quelques lignes. Et par contre, tout est dans le désert, par exemple. Et tout sent les bancs, les chaleurs. Mais enfin, c'est un vrai cadeau tant que lecteur.
Et comment vous avez travaillé, vous, justement, Luc Lang, sur cette association, ou peut-être cette contradiction, entre la dimension... sinon dépouillé, je dirais poétique, puisqu'on emploie ce terme à l'instant, et la dimension très technique de votre verbe, de votre connaissance, de votre curiosité pour le sujet, et en particulier donc pour les métiers de Thomas et Camille au début du roman, qui sont dans les hautes technologies. On se croirait dans des cases d'Hugo Pratt, où il y a des traits à l'encre de Chine, à main levée, et puis oui, des dessins très techniques d'Otto Schnee sur le conflit russo-japonais.
Oui. Oui, parce que quand j'écris une scène, que je conçois une scène ou une action, je me pose toujours la question de la faisabilité de la scène, c'est-à-dire d'un point de vue des limites du corps humain, d'un point de vue technique, d'un point de vue du vêtement que porte la personne pour pouvoir faire ses gestes et que d'autres vêtements ne pourraient pas lui permettre de faire.
Vous faites toutes les cascades de vos héros ?
Oui, quasiment, oui. C'est-à-dire que je peux pas faire autrement, en fait. C'est parce que sans doute à cause de mon amour des métiers, de l'attention que je porte aux gestes des métiers, parce que chaque métier a des gestes et chaque métier a un jargon, enfin bref. Et donc la question toujours pour moi, c'est la faisabilité de la situation et de l'action dans un moment donné qui est... dans une architecture donnée, qui est dans une lumière donnée, qui est avec des odeurs données. Enfin, donc, c'est-à-dire que j'essaye d'envisager la situation à la fois dans sa faisabilité complète, mais aussi dans la totalité de ses perceptions. Parce que si vous marchez sur un parquet, bah, vous n'avez pas la même sensation de votre corps que si vous marchez sur un carrelage. Vous n'avez pas la même lumière. Vous n'avez pas, du coup, les mêmes sensations, les mêmes ressentis, et vous n'allez pas produire tout à fait la même action. Donc, c'est important pour moi de prendre tout ça en charge dans la manière dont va avancer la scène, qui va pouvoir être à la fois tout à fait, si j'ose dire, tout à fait lyrique et en même temps tout à fait précise dans sa technique.
Voilà. Daniel Grenier, qui est romancier québécois, on va le recevoir cette semaine dans Ping Pong, oui, jeudi, vous pourrez écouter, oui, à 19h, parle de votre roman comme d'un roman américain.
Oui.
En quoi c'est juste pour vous ?
C'est juste pour moi en ce sens que... encore une fois, à la fois on colle à Thomas et on n'est jamais dans l'intériorité de sa pensée. C'est-à-dire on n'est pas dans la psychologie de Thomas. Et en fait, on est confronté aux situations que vit Thomas, mais c'est encore une fois à travers les perceptions de ce qui l'environne ou à travers les gestes qu'il fait que l'on perçoit son état psychique, que l'on perçoit son état émotif. Et en fait, la charge émotionnelle de la situation ou de l'action, elle est totalement prise à charge par le lecteur.
Ping-pong. It's already over.
Merci beaucoup à tous deux. Gracias muchas, comme on dit en verlan.
Juan Díaz Canales.
Juan Díaz Canales, donc vous signez seul Au fil de l'eau aux éditions Rue de Sèvres. Quant à vous, Luc Lang, vous signez seul également Au commencement du septième jour. C'est chez Stock.
Le ping-pong est un petit suspense radiophonique qui sourdit en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Jeanna Léo, Sam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Thomas Bou, à la prise de son ce soir, Théo Gomard et David Federman.
Demain, dans Ping-pong, des fantômes et des robots avec le musicien Thomas de Pourquerie et la French Touch en série.